France Info.
L'infomédia est d'abord le public français qui regarde toujours autant les programmes télé, mais de moins en moins la télé elle-même.
Oui, la dernière étude Global Télé de Médiamétrie indique en effet que nous sommes maintenant 26 millions de téléspectateurs à regarder chaque mois les chaînes depuis l'ordinateur, la tablette et le smartphone, et même 1 million à les regarder quotidiennement ainsi. Une tendance très forte, naturellement, chez les moins de 35 ans, dont plus de la moitié utilisent ces écrans.
Dans l'actualité média aussi, un retour qui va rappeler des souvenirs aux trentenaires.
Oui, au moins de 30 ans.
Eh oui,
ça vous dit quelque chose, hein. Une nouvelle qui a réveillé une certaine nostalgie chez certains membres de la rédaction, avec le retour annoncé pour la rentrée prochaine sur France 4 des Minicums, des marionnettes en latex conçues par les créateurs des Guignols qui ont marqué des générations de jeunes téléspectateurs de France 3 entre 1993 et 2002. Ces Minicums s'amusaient notamment à parodier des émissions avec Fort Bobard, Question pour un Lampion, ou des chansons à succès comme le tube Mélissa qui leur a permis de décrocher un disque d'or en 1997 quand même.
Didier, l'info média s'arrête ce matin sur ces titres ou ces chaînes qui changent d'actionnaire. La liste est longue. Le Monde, Libération, L'Express, Canal+, RMC, entre autres, deviennent la propriété de grands groupes aux mains de milliardaires. Pourquoi ?
C'est la question que se sont posées deux journalistes, Richard Sénéjou et Amaury de Rochegonde, qui travaillent respectivement à Télérama et à Stratégie, et à laquelle ils essaient de répondre dans leur ouvrage « Média, les nouveaux empires » qui sort aujourd'hui chez l'éditeur First. Le fait que de grosses fortunes s'emparent de médias n'est pas nouveau, hein, c'est une tradition bien française qui existe depuis le 19e siècle. Mais pourquoi ce regain d'intérêt de la part de Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Xavier Niel, Bernard Arnault, ou le moins connu Michel Lucas, patron du Crédit Mutuel, qui suivent la voie tracée par Serge Dassault dans la lignée des Lagardère et Bouygues. Investir dans les médias n'est pas forcément intéressant économiquement. Avec la défiance grandissante du public à l'égard de ces médias, l'influence qu'ils pourraient en tirer est de moins en moins évidente. Mais pour les deux auteurs, cette stratégie vise surtout à servir les intérêts de ces nouveaux entrepreneurs, nouveaux empereurs.
Et l'un de ces auteurs, Amaury de Rochegonde, est avec nous en studio ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Avec la campagne électorale, on entend beaucoup d'accusations, certains médias qui rouleraient pour tel ou tel candidat comme Patrick Drahi pour Emmanuel Macron. Vous qui suivez ça de près, est-ce que vous nous confirmez que c'est plus qu'une impression ?
Bon, c'est Marine Le Pen qui effectivement a dit que les médias de Patrick Drahi roulaient pour lui. En fait, elle se fonde sur quelque chose qui est vrai, qui est qu'en 2014, lorsque Patrick Drahi s'est porté candidat pour le rachat de SFR, à ce moment-là, il y avait des enquêtes fiscales qui étaient faites sur lui. C'était Arnaud Montebourg qui s'opposait à son rachat. Et quand Emmanuel Macron est arrivé à Bercy, on a oublié les enquêtes fiscales. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité parce qu'il faut continuer dans le temps. En 2015, eh bien cette fois, c'est SFR qui se porte candidat pour le rachat de Bouygues Télécom. Drahi met 10 milliards d'euros sur la table. Or, il y a une réunion qui se passe à Bercy le samedi. Et ce samedi-là, à l'issue de cette rencontre entre Martin Bouygues et Emmanuel Macron, eh ben Martin Bouygues décide de refuser l'offre de Drahi. Donc on peut dire tout aussi bien qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron n'a pas été favorable à Patrick Drahi.
Donc ce n'est pas parce que l'homme patron en tant qu'homme se porte pour ou contre un candidat, ou se prononce pour ou contre un candidat, que les titres forcément suivent.
Non, ils ont leur indépendance, bien évidemment. Et d'ailleurs, on se situe bien dans le livre, dans cette ligne médiane. C'est-à-dire que on dit, il ne faut pas considérer que la superstructure fait tout. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as tel actionnaire que toi, journaliste, tu seras comme cela ou que tu vas écrire comme cela. Mais on dit à l'inverse, on ne peut pas considérer que l'indépendance journalistique, la conscience journalistique est l'alpha et l'oméga d'un positionnement journalistique. Évidemment, l'actionnariat, le jeu d'influence compte, et c'est ce qu'on est allé voir de près.
Est-ce que vous avez l'impression, Amaury de Rochegonde, que la liberté de la presse est moins grande aujourd'hui avec cette prise en main, on va dire, des médias par ces milliardaires ?
Alors je dirais pas ça, je pense que la liberté de la presse est même relativement plus importante, notamment du fait d'Internet, du fait des réseaux sociaux, qu'au fond maintenant, peu de choses peuvent être occultées ou censurées. Il y a aussi une très grande liberté de la part des médias du service public ou de médias indépendants. Mais ce qui est vrai, c'est que chez ces médias privés, qu'on a observés de près, il y a une relative liberté, une relativement grande liberté, sur tout un pan d'activité, mais dès qu'il s'agit de l'activité de leur actionnaire ou d'activité jouxtant celle de leur actionnaire, là, ça peut devenir plus compliqué. Et parfois, c'est toute l'opiniâtreté des rédactions ou les garde-fous qu'ils ont su imposer par rapport à l'actionnaire, je pense aux Échos par exemple, qui va faire la différence et qui va garantir cette liberté.
Mais Ariane nous disait tout à l'heure, elle a cité des titres, un certain nombre de titres qui étaient économiquement très fragiles, sans ces milliardaires, on pense à Libération et l'Express avec Patrick Drahi par exemple, ou Le Monde avec Xavier Niel, est-ce que ces titres auraient survécu ? C'est la question.
C'est une vraie question et d'ailleurs on ne dit pas que ces actionnaires n'ont joué aucun rôle positif. Simplement, il faut bien voir que parfois ce sauvetage peut se payer au prix fort. Et le prix fort, c'est parfois que l'avenir n'est pas pour autant garanti parce qu'un chèque de plusieurs millions d'euros a été assuré. Quelle est la stratégie qu'il y a derrière ? Nous, ce qui nous a frappé, c'est qu'on trouve qu'il y a souvent des stratégies industrielles qui peuvent être d'ailleurs assez audacieuses. On pense à la stratégie de convergence, par exemple, qui est celle de Patrick Drahi. Mais il y a assez peu souvent de stratégies éditoriales fortes, de relance éditoriale forte. Donc on s'est dit, tiens, c'est curieux, c'est un peu ce qu'on a pointé dans le livre.
Et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait, c'est pas plutôt le poids des annonceurs, de la publicité aussi par moment, qui remet un peu en cause parfois la liberté de la presse, ou en tout cas l'indépendance par moment des médias ?
Ça peut arriver qu'il y ait des influences d'annonceurs. On l'a vu d'ailleurs à un moment, effectivement, par exemple, quand il y a eu Merci Patron qui s'est invité sur Europe 1, à ce moment-là, on a vu qu'il y avait parfois une peur de fâcher, en l'occurrence LVMH, qui est un annonceur de la radio. Mais c'est pas vraiment le domaine qu'on a privilégié dans ce livre, qui parle plutôt du rôle et de l'influence des actionnaires eux-mêmes sur les rédactions.
Amaury de Rochegonde, merci. Je rappelle donc le titre de ce livre que vous avez coécrit avec Richard Sénéjou, Média, les nouveaux empires, qui paraît aujourd'hui chez First. Merci, bonne journée.
Merci à vous.